Oscar Miloche, Contes et fabliaux de la vieille Lituanie. Le jeune prince et ses sept précepteurs. Il était une fois un roi de belle corpulence, d'un caractère orgueilleux et irascible, et qui avait beaucoup d'argent. Vous sentez déjà que les événements qui vont suivre ne date ni d'hier ni de la semaine passée. Sa femme mourut en lui laissant un petit garçon qu'elle voulait qu'il élevât loin des intrigues et des turpitudes de la cour. Conformément à ce vœu, le jeune prince fut confié à sept frères qui devaient lui apprendre tout ce qui se passe sur la terre et dans les étoiles. Après 6 années d'études, la nouvelle reine, car le roi s'était remarié, voulut connaître son beau-fils. Celui-ci fit aussitôt, tout joyeux, ses préparatifs de voyage. Mais en levant la tête au ciel, il y aperçut un cep de vigne dont l'extrémité était rongée par de gros vers. « Vous voyez ce signe étrange, là-haut, entre Orion et Bételgeuse ? Ne donne-t-il pas à entendre que 3 jours après mon arrivée au palais, je serai pendu ? » Les 7 précepteurs confirmèrent son interprétation et, saisis d'un trouble indicible, allèrent s'enfermer dans leur observatoire pour délibérer sur la décision à prendre. Après d'interminables débats, ils prescrivirent à leur élève de jeûner pendant 7 jours. Ce temps d'abstinence passé, ils eurent recours à la théurgie et le frappèrent de mutisme complet. Peu après, le roi vint en personne chercher son fils. En apprenant l'infirmité dont il souffrait, il donna tous les signes d'un vif mécontentement. Néanmoins, il emmena le jeune prince pour le présenter à la reine et à la cour. La souveraine n'eut pas plutôt aperçu les faibles qu'elle s'en éprit à en perdre la raison et lui glissa dans la main un billet des plus enflammés. Sans être parvenu à l'initiation au Loclerc, le disciple des mages observait scrupuleusement leurs préceptes et y admirait surtout ce qui avait trait à la chasteté, source miraculeuse de fécondité spirituelle. Il répondit donc à sa belle-mère, qui ne manquait pourtant pas de charme, avec une froideur qui ne lui laissa aucun doute sur le peu de succès de ses avances. Elle en conçut quelques chagrins, mais surtout un vif dépit qui la porta à une fâcheuse extrémité. Empruntant tous les dehors de la vertu outragée, elle alla trouver son époux et lui reprocha d'avoir introduit dans leur demeure un jeune Tartuffe qui, sous un masque de pudicité outrée, dissimulait de véritables penchants de babouin. Ne s'est-il pas laissé emporter tantôt jusqu'à me faire, à moi, sa belle-mère et sa souveraine, des propositions infâmes, accompagnées du demi-mique plus digne du chenil ou des petites maisons que d'un palais. Le roi manifesta de prime abord une grande surprise, mais la marâtre reprit son récit de l'outrage avec une indignation si habilement feinte et tant de détails scabreux que le pauvre barbon, fort jaloux de son naturel et vivement épris de la jeune mégère, faillit demeurer sur le carreau d'un transport à la tête. Les soins que lui prodiguèrent 10 médecins mandés en hâte et 50 chambellans et valets eurent pour effet de le jeter dans un autre extrême, car à peine revenu de la mort, il donna de sa vitalité une preuve des plus effarantes en faisant voler par la chambre sceptres et couronnes et tels objets qui avaient le malheur de se présenter à sa vue. pendait sur le champ son Altesse royale, Monseigneur le Dauphin, mon fils, vociférait-il cérémonieusement au grand effroi de la cour. Le plus jeune des sept précepteurs, témoin de cette sortie, eut l'heureuse inspiration de détourner le cours de la colère royale en s'offrant lui-même à ses coups. Le jeune prince, notre élève, est le modèle de toutes les vertus, s'écria-t-il d'une voix que la peur rendait fort aiguë. Le monarque, doué d'une force et d'un embonpoint peu ordinaire, eut au fait de le terrasser. Mais tandis qu'il lui frappait la tête contre le parquet, le courageux épopte laissa échapper ses nobles paroles. Ce n'est pas le lieu, sire, de vous rappeler ce que les sages de l'Antiquité et nos propres pontifes Crives ont rapporté sur les dangereux égarements provoqués par la colère. Faites venir l'héritier de votre couronne. Instruit par les dieux, de la volonté desquels nous ne sommes nous autres que les humbles exécuteurs, il vous dira de quelles erreurs cette funeste passion a été l'origine depuis la révolte des Titans. Surpris de la noblesse de sentiment et de la présence d'esprit dont le mage lui donnait l'exemple au milieu d'un exercice extrêmement violent, le roi se résigna à l'écouter, tout en le secouant de temps en temps comme un sac que l'on presse de rendre son contenu. Lui, un babouin, sire, allons donc, dites plutôt un initié depuis Hestia. Je n'ai pas besoin d'être plus clair, m'adressant au plus sage des monarques et à la plus savante des cours. Ah, sire, quelle perte irréparable pour vos états si une vie si riche de promesses devait être coupée en sa fleur. Et si un si beau fruit des Hespérides se desséchait à la branche sans feuillage d'un gibet. Cette dernière figure remua profondément les entrailles du roi. Il ne secouait plus que d'une seule main le mystagogue. De l'autre, il soulignait en connaisseur le rythme de son discours. Laissez-le mûrir, ô grand roi, dans ses sacrés bocages, où votre ancêtre rencontra jadis la nymphe. « Je ne comprends pas, » interrompit le souverain en dressant l'oreille. « Mon ancêtre, la nymphe ?»« Mais oui, sire, votre ancêtre, Numa, tout gentilhomme lituanien qui se respecte, n'a-t-il pas à cœur de rattacher son nom à quelque famille patricienne de Rome ? Celui de votre race, écrit en constellation au ciel, vous épargnera ses longues et savantes recherches. Nous vous fournirons de votre illustre origine les preuves les plus irréfutables. Tiens, tiens, dit le roi, qui était fort vaniteux. Mon père m'en a bien touché un mot autrefois, mais le nom qu'il citait était un peu différent. C'était quelque chose qui faisait penser à un incendie. De Rome, naturellement, sire. Néron, peut-être. Non, pas. J'y suis. C'était, il me semble bien, Pompée, ou quelque chose d'approchant. Pompilius, sire, Pompilius, Numa Pompilius. Vous voyez bien que j'avais raison. Quelle confirmation éclatante de nos révélations célestes. L'irascible monarque buvait maintenant les paroles de l'astrologue qui s'était relevé de terre et remettait de l'ordre dans ses vêtements orphiques. Messieurs, nous faisons grâce à Monsieur le Dauphin. Le Dadouk saisissait déjà la main du roi pour la baiser. Nous lui faisons grâce jusqu'à demain matin. Pendez-le aujourd'hui même, criait la reine. Demain, vous ne vous souviendrez plus de rien, je vous connais.
Il sera pendu demain au lever du soleil, madame, répondit le souverain en baisant galamment la main de sa rugissante épouse. Au premier feu du jour, le roi, suivi de l'exécuteur des hautes œuvres, alla frapper à la porte de son fils. Il y rencontra le hiérophante lui-même, qui, levant en manière de salutation la couronne de myrte qu'il portait sur la tête, lui dit « Noble roi, avant de sacrifier ton Isaac, permets-lui de te dire 7 mots. » « Mais il est muet !» s'écria le roi. « Grâce à nos oraisons jaculatoires, il ne l'est plus. » « Et pourquoi 7 plutôt que 6 ou 8 ?» observa le monarque. « C'est la nature, c'est la vérité même qui parlera par sa bouche, » répliqua le maître. Le roi fit semblant de comprendre et ordonna à son fils de parler. Celui-ci prononça aussitôt ces 7 sibyllines paroles. 12 dames d'Atours en font 11. Mais puisque depuis qu'il existe une tradition dans ce royaume, c'est-à-dire depuis l'âge du bronze, elles sont 12. Voyons que signifie ce galimatia. Sont-elles 12 ou 11 par quin dans les taches de la lune? Et déjà, le visage royal se violaçait de colère. Réprime ton ire, ô grand roi, dit d'une voix sourde l'aîné des 7 frères. Ordonne aux 12 dames d'Atours d'apparaître devant toute la cour et de se dévêtir en notre présence. De plus en plus surpris, le roi obéit au grand prêtre, estimant sans doute que ce spectacle valait bien celui de la pendaison d'un morveux. Les 12 dames, informées par la voix du héros de ce que l'on attendait d'elles, se contentèrent de sourire et se prirent sur le champ, sans en éprouver la moindre gêne, à dévoiler aux 500 messieurs réunis ce qu'ils connaissaient déjà depuis belle lurette, chacun d'eux pris séparément. On fut cependant frappé du trouble qui, avec le progrès de la dénudation, gagnait l'une des dames ainsi que la reine. Lorsqu'il fallut laisser choir le dernier voile, la jeune pudique pâlit mortellement et supplia tout haut ses compagnes de lui épargner une pareille infamie en résistant à la fantaisie du roi. Mais celui-ci se contenta de prononcer, sur le ton consacré, à la formule traditionnelle « Le chapeau, messieurs », cette simple phrase « Mesdames, la chemise ». Un sourd murmure parcourut la noble assemblée lorsqu'elle reconnut à certains signes indubitables la présence au milieu des 12 dames d'honneur, qui n'étaient que 11, d'un jeune et beau grenadier de la garde que l'on croyait déserteur. On porta évanoui la reine infidèle à la potence, le roi frappé d'apoplexie au pourrissoir, et le jeune prince initié à la salle du trône.